Voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Sans condition de pensée, de parole ou d'acte, de personne, la grâce, la miséricorde et la paix sont avec chacune et chacun d'entre vous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour. De tout cœur, ô Éternel, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Tu fais grandir en notre âme une force. Nous te rendons grâce quand nous entendons les paroles de ta bouche. Nous chantons les chemins de l'Éternel. Quelle est grande la gloire de l'Éternel. Quand nous marchons au milieu des angoisses, tu nous fais revivre. C'est ton action qui nous rend vainqueurs. L'Éternel fait tout pour nous. Notre Dieu, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Donc c'est ce psaume 138 dont je viens de vous lire quelques extraits que je vous propose de chanter maintenant. Les trois strophes de ce psaume 138 dans le psautier français, « Que tout mon cœur soit dans mon chant ». Vous pouvez prendre place. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Nous nous tournons vers Dieu dans la repentance. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. Mais voici ce que déclare l'Éternel à chacune et à chacun d'entre nous. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, nous dit l'Éternel, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera jamais ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et voici comment Dieu a manifesté cet amour pour nous. Il a envoyé son Fils, son unique, dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Il a envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place. Et puis j'accueille avec joie donc Pascal Perret, bienvenue tout particulièrement à vous ce matin, puisque vous avez demandé à faire votre profession de foi parmi nous. Et puis alors grand bienvenue à votre famille. Donc, il vous accompagne comme ça, volontiers, par amour pour vous et puis par admiration. Admiration que nous partageons. Bravo pour votre parcours si sincère et si vrai, pour ce courage qui vous anime, ce courage dont parle Paul Tillich quand il parle du courage d'être qui permet de traverser des déserts. Bravo pour cette démarche spirituelle et théologique, passant de la peur de Dieu, mais vous allez mieux nous l'expliquer que ce que je peux vous dire, à la confiance en Dieu, démarche nourrie par la lecture, par l'étude, par la prière, par l'initiation à la théologie, par la pratique du culte, et puis aussi par le service de l'autre, dans lequel on reçoit tant aussi. Mais vous avez accepté donc de nous parler un peu de vous, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas agréable, bien sûr, mais c'est donc un cadeau que vous nous faites, et donc merci pour ce que vous allez pouvoir nous dire.
Baptisé le 1er mars 1964, par tradition familiale de confession catholique, j'ai cheminé aveuglément du catéchisme classique et obligatoire à la communion et à la confirmation, point d'orgue, sans bien réaliser ce qui m'arrivait puisque je suivais le chemin tout tracé de mes ancêtres. J'ai reçu ma médaille et ma chaîne de baptême, ma montre et ma chevalière de communion, mais rien d'autre sur le plan spirituel. Par grâce, très tôt, j'ai senti cette présence chaleureuse et aimante qui me semblait être Dieu. Cette présence m'a accompagnée dans le chaos de mon enfance. Une épine dans le corps, j'ai connu des moments de profonde détresse, mais aussi d'immenses bonheurs. Mon mariage, la naissance de mes 5 enfants qui me font la très grande joie de m'accompagner aujourd'hui. Cette présence m'accompagne au quotidien, dans les petites tâches bien ingrates, souvent répétitives, sans consistance apparente. Elle m'accompagne lorsque j'ouvre ma fenêtre sur un ciel bleu, quand j'entends chanter les oiseaux, quand la chaleur du soleil réchauffe ma peau, quand je suis dans le métro et que j'échange un sourire avec mon voisin, quand je donne des cours d'alphabétisation à des apprenants venus en France pour y trouver un monde meilleur, et qu'il m'offre le sourire né du bonheur d'avoir saisi l'association des lettres en syllabes, des syllabes en mots, et la lecture de leur première phrase. Ce sourire qui est un don réciproque. Aujourd'hui, c'est avec un immense bonheur et beaucoup d'émotions que je confirme, en conscience et avec vigueur, l'alliance qui me fut donnée avec Dieu dans le baptême et que Jésus est le Seigneur. Oui, je crois en Dieu. Dans mes tourmentes et mes chutes, il est la mère qui me console et soigne mes blessures avec une infinie tendresse. Il est le père qui me relève, me redit sa confiance en moi, m'encourage à marcher malgré les embûches, malgré mes égarements, parce qu'il m'aime bien au-delà de mes œuvres, inconditionnellement. Dans sa bienveillance sans limite, il me pardonne quand je ne fais pas le bien que je veux, mais que je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Il me porte quand mes forces me lâchent. Il respecte mon rythme, mes étapes. Son esprit est le silence qui me libère des bruits et des pensées qui me parasitent. Il me souffle le dynamisme de sa parole d'amour et de grâce. Oui, je crois en Jésus-Christ. Il est mon frère, mon ami, mon guide, l'incarnation de la parole de Dieu. En dépit de tous les drames de notre monde si tourmenté, il m'annonce la bonne nouvelle, celle qui libère et nous rapproche de Dieu. Il est mon phare, mon appui, le témoin de l'amour total pour Dieu et pour nous. Dans la famille catholique, j'ai fait de très belles rencontres avec des frères et sœurs, des prêtres et des religieuses formidables. Elle fut le terreau chaleureux du premier chapitre de ma vie dans l'Église chrétienne, celui que j'intitulerai « Ma foi de charbonnier ». J'appellerai le second « Ma foi en liberté » et pour m'accompagner dans mes questionnements foisonnants, m'épauler dans une démarche libre et exigeante de discernement, je demande à la maison de l'oratoire de bien vouloir m'accueillir. Je reconnais la primauté de la foi sur les doctrines, la vocation de l'homme à la liberté, la constante nécessité d'une critique réformatrice, la valeur relative des institutions ecclésiastiques, le désir de réaliser une active fraternité entre les hommes, tous sans distinction, enfants de Dieu. Enfin, j'ai une pensée très affectueuse pour Paul de Tarse, mon frère en Jésus-Christ, qui me révéla que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres. Chers frères et sœurs, c'est un grand honneur, un immense bonheur pour moi que votre accueil. Avec mes faiblesses, avec mes qualités, vous pouvez compter sur ma fidélité, ma disponibilité dans les besoins et ma sincère fraternité en pensée et en acte.
Grand, grand merci donc pour ces paroles. Il y a énormément, je crois, à retirer pour nous-mêmes, faire un pas en avant, avancer. Et puis merci pour cet honneur et pour cette joie que vous nous faites d'avoir choisi cette église de l'oratoire pour inscrire votre parcours de disciple en liberté, donc de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, c'est vous qui nous proposerez donc la confession de foi qui sera celle de notre église pour ce matin. Je vous propose donc de vous lever pour vous associer par la foi à cette déclaration de croyance qu'a écrite Pascal.
Je crois en Dieu, notre Créateur, hier, aujourd'hui et demain. Dieu notre Père, rayonnant d'un amour infini, qui nous invite à participer à notre création et qui, dans son infinie bonté, nous donne toute grâce. Je crois en Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair, Jésus notre frère venu nous annoncer la bonne nouvelle. Je crois en l'Esprit Saint qui souffle en notre cœur l'amour ardent de Dieu, ranime notre foi dans les tiédeurs de nos existences, illumine notre regard sur nos frères et insuffle sa bienveillance dans nos relations humaines. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen.
Un grand merci, Pascal.
Merci.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Alors Pascal, vous avez reçu autrefois le baptême, signe de l'amour que Dieu a pour vous en particulier, manifesté en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne et plus particulièrement comme membre de cette communauté que nous formons ici à l'oratoire. Pascal, oui, que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il éclaire votre route par sa parole, qu'il vous donne la paix par sa présence, qu'il vous donne d'être une bénédiction pour ceux qui vous sont confiés. Et pour cela, oui, que le Saint-Esprit affermisse de jour en jour votre foi, qu'il vous accorde ses dons et qu'il vous les renouvelle de jour en jour. Que la joie de l'Éternel soit votre force. Amen.
J'ai découvert cette semaine le blog d'un d'entre vous, ami de l'oratoire, donc Denis Guénoun, pour ne pas le citer, malgré sa modestie légendaire, qui est philosophe et écrivain. Et donc dans son blog, il met en valeur ce commandement donné par Moïse à la toute fin du livre du Deutéronome, « Choisis la vie afin que tu vives », commandement tout simple d'une évidence lumineuse et pourtant extrêmement profond et fécond pour nous aider à avancer. Alors pour replacer ce texte dans son contexte, il s'agit là donc du testament de Moïse. Il a achevé son rôle, donc les Hébreux ont été libérés des griffes du Pharaon par miracle, par la force de Dieu et puis par l'énergie de Moïse. Ils ont reçu de quoi penser leur théologie et leur philosophie avec la révélation au buisson ardent où Dieu est reconnu comme source d'être et pas simplement comme un impitoyable patron. Ils ont pu réfléchir sur le juste rapport avec Dieu, avec leur prochain et avec leur propre désir, avec les tables de la loi. Ils ont appris à rendre un culte à Dieu afin de travailler à bien s'ajuster avec lui. Et donc les Hébreux ont ainsi fait du chemin avec Moïse, mais maintenant ils tournent en rond. Ils tournent en rond depuis 40 ans. Moïse se révèle bien incapable de les amener plus loin, de les mener à l'intérieur de la terre promise elle-même. Il ne peut que monter sur la montagne et l'apercevoir de loin. Alors dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, je commence à lire à partir du verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements, ses préceptes écrits dans ce livre de la loi. Et puis lorsque tu reviendras, tu te convertiras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. En effet, ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous le fera connaître afin que nous puissions le mettre en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, mais qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Cette parole, au contraire, est tout près de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas pouvoir entrer et prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et leur rendre un culte, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Moïse alla dire ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans et je ne pourrai plus aller et venir. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu, il passera lui-même devant toi. Et puis, il détruira ces nations devant toi. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour laisser le temps à ces paroles de résonner en nous, de chanter ensemble le cantique numéro 298 dans le petit recueil « Louanges et prières ». 298, les trois premières strophes de ce cantique « Que ne puis-je, ô mon Dieu ?» Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je suis prêt à servir. Parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie, et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant pardon me convertisse entièrement afin que rien ne s'oppose en moi à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, que j'aie en perfection l'amour et de toi et de tes enfants que tu me confies pour que je les aime. L'Église chrétienne est comme Moïse, elle peut décrire le royaume et ne se prive pas pour en parler savamment. L'Église est comme Moïse, elle peut stimuler notre recherche théologique et éthique, elle peut nourrir notre cheminement jusqu'à un certain point. Mais si on en reste là, on tourne en rond, comme dans un désert, il faut autre chose pour franchir le Jourdain et entrer dans la vie. Quelque chose qui n'est plus seulement une parole extérieure, mais au contraire une parole qui nous est intérieure. C'est une parole proche de toi, toute proche de toi, une parole intense, une parole littéralement chaude comme la braise, une parole qui est dans ta bouche et dans ton cœur afin de se réaliser. Moïse ne dit pas que cette parole est dans notre livre, ni dans nos prophètes, ni dans notre Église, ni dans nos fêtes et dans nos cultes. Comme les Hébreux à la fin de l'Exode, nous sommes libérés de la soumission à tout cela. Dans notre Église, nous sommes même particulièrement libérés. Moïse annonce ici la fin de la peur de Dieu qui, quoi qu'il se passe, nous dit Moïse, ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas sans condition. Dieu n'est plus compris comme source de punition, mais au contraire, comme cherchant à nous avertir des conséquences du mal et de nous en préserver. Cette théologie libératrice est encore infiniment plus claire en Jésus-Christ. Et puis depuis le temps des Hébreux, notre lecture de la Bible a été enrichie et donc libérée par des millénaires de débats, de recherches, d'analyses littéraires, mais encore par la réconciliation de l'intelligence et de la foi au cours des siècles. Nous avons aussi une puissance multipliée par la science, par les techniques, par la richesse des communications entre nous. Nous sommes donc libres comme jamais personne n'a été libre dans l'histoire de l'humanité. Mais comme pour les Hébreux, s'il n'y a pas cette dernière parole de braise, parole intérieure, alors nous restons avec notre belle liberté à tourner en rond dans le désert et à regarder de loin la vie promise. Mieux vaudrait alors, pour les Hébreux, être restés en Égypte, ils seraient mieux, bien plus tranquilles. Et en ce qui nous concerne, si nous n'avons pas cette parole de braise qui permet effectivement de choisir et d'avancer dans la vie promise, mieux vaudrait ne plus avoir été libérés et rester encore dans la peur de Dieu, la peur du jugement de Dieu, comme le bouddhiste qui craint une réincarnation défavorable s'il n'est pas fidèle à son karma. Comme le juif et le musulman peuvent craindre que leur bilan de bons et de mauvais points les envoie en enfer. Apparemment, il y a pas mal de chrétiens aussi qui sont restés soumis à cette menace du jugement de Dieu s'ils ne croient pas comme il faut, ou ils ne font pas bien tout comme il faut, c'est-à-dire comme leur dit leur Église en fait. Alors c'est triste, mais au moins leur foi change quelque chose à leur vie, à ces croyants-là, à ces chrétiens-là. Ils s'impliquent, ils ne vivent pas cette vie en touriste comme quand nous sommes hyper bien libérés, mais sans vivre de cette parole de braise dans notre bouche et dans notre cœur. Nous restons alors dans notre désert, bien libérés de tout, montant joyeusement sur notre petite montagne pour regarder un peu la vie de haut et puis disserter des promesses de Dieu pour mieux ensuite tourner en rond sans entrer dans la vie vivante. Alors, est-ce que notre vie est changée par notre foi? Est-ce qu'elle nous fait choisir la vie qui ose traverser le Jourdain par un miracle de Dieu et se frotter à Jéricho, ayant porté des victoires par le miracle de Dieu? Pour cela, il faut que Moïse s'efface et que vive dans notre bouche et dans notre cœur la parole de braise. Cette parole intérieure n'annule pas la libération acquise, elle n'annule pas la Torah, la Bible, l'Évangile. Elle n'invalide pas le bénéfice de l'intelligence travaillée au jour le jour dans le croisement des interprétations multiples, des sciences humaines, des sciences dures. Au contraire, tout cela mène ou devrait mener à cette parole intérieure et pouvoir vivre alors personnellement cette parole. Tu peux choisir par toi-même. Tu n'as besoin de personne pour aller chercher la solution. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour choisir et je sais que tu choisiras bien, nous dit Moïse.
Tu choisiras la vie afin que tu vives toi et ta postérité, toi et ce que tu auras semé dans la vie, dans l'amour de l'Éternel et par les miracles qu'il accomplira dans ton cœur, dans ta vie. Mais ce qui permet cela est quelque chose d'un autre ordre que la parole extérieure, autre chose que de suivre Moïse. C'est laisser Moïse partir. C'est l'aimer et avoir pour lui de la gratitude, mais précisément écouter dans sa propre conscience, conscience de ses limites et de ce qui peut les dépasser. Moïse alla pour dire ses paroles à tout Israël. « Je suis âgé de 120 ans. À ce jour, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Mais pour toi, nous dit Moïse en s'adressant individuellement à chacun, mais pour toi, l'Éternel, ton Dieu à toi, passera lui-même devant toi et gagnera des batailles pour toi. » Ce Moïse alla est curieux puisque Moïse était déjà devant le peuple. Mais ce Allah fait écho au Abraham Allah, comme l'Éternel le lui avait dit. Et ainsi, toute cette longue saga d'Abraham à la fin du Deutéronome, à la fin de Moïse, est tout ce signe de la mise en route par la foi suite à la rencontre avec Dieu. C'est le commencement alors d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle façon d'être. Et c'est effectivement par une expérience vive et profonde de l'Éternel, ton Dieu à toi, que la personne individuelle pourra franchir son Jourdain, passer à une autre dimension malgré toutes les négativités qui peuvent être rencontrées. Il est bon que Moïse en nous fasse cette expérience spirituelle, sente ses limites de notre si courte vie, 120 ans au maximum. Les limites aussi de la puissance de la religion et de la parole externe de la Bible. Limites de la solidarité aussi d'un peuple qui marche tous ensemble. Tout cela est juste et bon, mérite d'être développé, mais doit ensuite laisser place à la parole de braise qui permet de choisir la vie, en vérité. Alors on peut imaginer bien sûr le vertige de ce peuple qui perd alors son formidable Moïse, l'intermédiaire avec Dieu, l'unité de tous, le guide qui fait des prodiges, le pasteur rêvé pour toute paroisse sans doute. Alors il y aura d'autres chefs, plus ou moins bons. Il faut bien s'organiser pour vivre ensemble. Mais le projet ici est que chacun devienne maintenant une personne adulte, avec la mission de choisir par elle-même ce qui va dans le sens de la vie, ce qui va effectivement au sens de la vie. Et puis dépasser tout ce que Moïse et qui que ce soit d'autre pourrait nous apporter de l'extérieur comme bonne recette de vie. Il n'y a pas d'autre solution pour entrer dans la vie que d'y entrer soi-même. Alors Moïse se met à parler au singulier, s'adressant à chaque personne du peuple entier, et puis à ceux qui ne sont pas encore là, nous dit-il, et donc aux générations futures, et à nous aussi qui, ce matin, méditons sur cette parole. « Tu as tout à portée de la main, nous dit Moïse. » Il le dit d'expérience. La parole de braise est déjà dans ta bouche et dans ton cœur. Et tu ne le sais peut-être pas. Alors beaucoup ont fait l'expérience et savent de quoi parle ici Moïse quand il parle de cette braise dans le cœur. Il sait de quoi parle l'histoire d'Abraham qui est mis en route par cette rencontre avec Dieu et ces rencontres qui jalonnent toute la Bible jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à Paul et bien d'autres. Certaines personnes pensent ne pas avoir fait cette expérience d'une rencontre vive avec Dieu. Eh bien, cela se travaille. Peut-être comme Moïse, faut-il monter sur la montagne, par son intelligence, par sa réflexion, entrevoir la brièveté et la fragilité des choses et des êtres en ce monde, voir notre incapacité à avancer avec notre seule force, à nous changer nous-mêmes, voir de loin ce que pourrait être, ce que devrait être la vie en plénitude. Et puis chercher au plus profond de soi quelque chose de plus grand que nous qui fait écho à cette plénitude, à cette ultime. Aller ainsi au cœur de son être, là où existe une parole qui dépasse toute parole, et puis la ruminer, la porter en bouche dès que l'on en trouve une première miette.
Alors c'est ce que conseille Jésus à cet homme à la main sèche, dont je vais vous lire encore dans l'Évangile un court récit au chapitre 3 de l'Évangile selon Marc. Jésus cite ce passage du Deutéronome explicitement pour nous dire la liberté de vivre avec Dieu. Jésus entra dans la synagogue, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de pouvoir l'accuser. Et puis Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Alors ils gardaient le silence. Jésus, promenant ses regards sur eux avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit sa main et elle devint saine. Et donc Jésus conseille à l'homme à la main sèche, en citant ce passage du Deutéronome qui permet de choisir la vie, « Lève-toi là, au milieu. » Mais on pourrait traduire tout autant, « Ressuscite là, au milieu, ressuscite au cœur de toi-même. Mets-toi debout. Tu n'es pas un serpent pour ne manger que la poussière du sol. Tu n'es plus tout à fait un bébé pour ramper à quatre pattes sur le sol, au ras du sol. » Il y a au milieu de toi, il y a en toi, dans ta bouche, dans ton cœur, il y a une parole de braise qui te ressuscite, qui te met debout et bientôt en marche, qui délie tes membres et te permet d'avancer la main pour créer. Et là encore, la discussion autour de la Bible, le culte, la réflexion éthique, philosophique et théologique ne sont pas rendues inutiles par Jésus, puisque c'est à la synagogue que l'homme rencontre Jésus et va pouvoir se mettre debout au cœur de lui-même, enfin vivant. Mais la communauté est comme Moïse, elle n'est que Moïse, elle est utile, mais elle mène simplement à la porte. La parole de braise, c'est autre chose, c'est comme un cœur chaud à l'intérieur de la personne, vivant, actif, quelque chose de frémissant quand on sent qu'il y a une solution qui va dans le sens de la vie, un acte, une parole, un geste, une pensée qui va dans le sens de la vie. Et puis ce quelque chose de brûlant en nous qui va nous faire sentir comme une vive brûlure, insupportable quand on sent que quelque chose va dans le sens de la mort, du mal et de la malédiction. Quelque chose qui nous permet une véritable repentance et de ne plus continuer ainsi dans l'illusion. Souvenez-vous du récit des disciples de Jésus qui s'éloignent tout déçus à la mort de leur espérance, à la mort de Jésus qui, ayant cheminé, s'éloignant finalement, reconnaissent enfin le Christ et disent « Notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous-mêmes » lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait la Bible, et puis se dressant à leurs mêmes, nous dit l'Évangile selon Luc, ils se retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les autres. Ils marchaient donc dans le mauvais sens, loin de la foi, de l'espérance et de l'amour des autres, loin de la vie, de leur vie. Quelque chose de l'ordre d'une parole brûlante dans leur cœur donne vie alors aux écritures anciennes de la Bible, qui restaient extérieures, mais c'est cette parole de braise qui va leur permettre de ressusciter, littéralement, là encore, se mettre debout et retourner. Car alors, vivre mal, alors les méchancetés, les petits coups bas leur sont insupportables comme une brûlure et ils choisissent la vie naturellement, joyeusement, et ils choisissent de retourner pour réparer la vie, pour faire corps avec les autres qu'ils abandonnaient, pour suivre leur petit chemin individuel. Ce verbe « retourner », c'est le verbe essentiel dans la Bible qui évoque la repentance, qui est présent 10 fois dans ce discours de Moïse dont je vous ai lu un extrait. Alors il n'est pas facile de voir clair dans la vie, et encore moins de voir clair en soi-même, bien sûr. Parce qu'en réalité, nous savons bien que nous sommes très limités, comme Moïse le remarque, alors que faire? Tant qu'il n'y a pas cette parole qui nous ressuscite à l'intérieur de nous-mêmes, face à cette fragilité de notre être, nous pensons n'avoir le choix qu'entre le désespoir ou bien la lutte puérile pour se hausser le col. peut-être par un trop-plein d'activité, peut-être aussi en écrasant les autres autour de soi pour avoir l'impression de bien exister, peut-être en se durcissant dans ses certitudes et sa propre fierté comme dans une forteresse. Mais choisir la vie, ce n'est pas ça précisément, c'est l'inverse, exactement l'inverse. Mais il y a une parole, la parole de Braise, qui ouvre la vie et qui permet de réparer la vie. Ce n'est pas une parole qui nous parle de Dieu, mais c'est une parole qui est Dieu travaillant en nous directement. Une parole qui n'est plus nos blablas ronflants de belles pensées dialectiques, de citations, comme nous sait le proposer fort bien Google quand on lui demande ce que c'est que la vie. Mais entrer en soi-même et reconnaître ou se souvenir de ce quelque chose comme une présence chaleureuse qui nous semble être Dieu, comme le disait Pascal tout à l'heure lors de sa profession de foi. Ce quelque chose alors brûle en nous et nous fait ouvrir les yeux, peut-être sur les saloperies que nous avons faites, pensant être dans notre bon droit, dans le bien, dans l'utile. Et puis pleurer sur ce que l'on a subi et sur ce que l'on a peut-être fait subir. Ce quelque chose qui brûle dans le cœur peut faire quelque chose de bon même de ces mauvaises choses-là. Parce qu'alors nous avons l'expérience de ce que c'est que la mort, le mal, la malédiction. Et nous pouvons alors peut-être, par ce retournement, choisir la vie. Et puis cette parole vive, cette parole brûlante nous donne d'être émerveillés par la vie, de tout ce qui est bon et de choisir enfin la vie. Parce que c'est une évidence de choisir la vie, le bien et la bénédiction, mais quelle vie ? Le fils prodigue de la parabole de Jésus, il croyait choisir la vie quand il est parti, tranquillement, librement, joyeusement, vivre comme bon lui semblait. Mais finalement, il entre en lui-même et il commence alors à comprendre. Il revient vers son père pouvant alors courir à lui, le prendre dans ses bras et se réjouir. Le fils avait cru choisir la vie. Perdu, rentrant en lui-même, il a retrouvé quelque chose de l'ordre d'un sentiment, un cœur, une parole qui peut lui permettre de se remettre debout et de retourner, de choisir la vie dans son désespoir. Il le rend capable de dire d'abord en lui-même, puis explicitement ce qui n'allait pas, et puis vivre enfin et réparer la vie. Alors cette parole de Braise-là, nous dit Moïse, elle est tout près de nous, elle est dans notre bouche et dans notre cœur. Elle est dans notre bouche pour nous nourrir, parce que la bouche, ça sert d'abord à cela, avant même que nous apprenions à parler. Alors s'il y avait une seule chose d'utile dans la Bible, dans le culte, dans la théologie, c'est de nous dire que la prière est possible et que cette expérience du cœur brûlant, elle est possible pour chacune et pour chacun. Alors il n'est pas besoin d'avoir déjà senti Dieu pour prier, au contraire, c'est quand on ne sent pas en nous cette parole de Braise qu'il convient de chercher Dieu et donc de prier, d'entrer en soi-même. Moïse ne nous dit pas de trouver Dieu, il nous dit de l'aimer. Alors on peut déjà prier en espérant Dieu, en espérant avoir la foi déjà, c'est aimer Dieu sans le connaître. On peut déjà commencer à entrer en soi-même et c'est déjà aller vers Dieu puisqu'il est là aussi, au cœur même de notre être. La suite viendra, la parole ardente qui commence déjà peut-être à nous relever, à changer notre façon de voir, qui nous permet de franchir des petits jourdains, de commencer à choisir de lutter pour la vie. Parce que la vie est un combat en fait. La vie ne va jamais de soi, ce n'est pas symétrique la vie et la mort. C'est ce que nous apprennent le ciel et la terre que Moïse prend à témoin. Scientifiquement, nous savons que le temps va forcément dans le sens de l'érosion, du chaos croissant et donc de la mort. La vie est un miracle. Et choisir la vie délibérément permet de convertir le temps qui, au lieu de travailler par l'érosion, eh bien, va travailler dans le sens de la vie, du bonheur et de la bénédiction. Faire travailler le temps dans le sens de Dieu, nous faisant revenir de nos exils et marcher dans la vie. On ne peut pas retourner en arrière et faire que l'exil n'ait pas eu lieu, mais le temps peut se mettre à travailler pour nous et être dans un retour d'exil. Choisir la vie est donc un acte de foi.
C'est la foi elle-même, en fait, choisir la vie, car Dieu est la vie et il est même la source de la vie, au-delà même de la vie. Mais la question est de choisir ce que l'on entend par la vie, c'est-à-dire quel Dieu on adore en vérité. C'est pourquoi Moïse précise en parlant de la vie, du bien, de la bénédiction, de la vie qui fait vivre. Pour le reste, Moïse ne nous demande pas d'être plus forts que toutes les négativités, tous les Jérichos. Nous ne sommes pas des guerriers invincibles. Mais il nous dit que nous sommes capables de choisir la vie. Il nous le dit avec un tranquille futur. Oui, tu choisiras la vie. Et puis de laisser travailler en nous cette parole de braise qui aide à la conversion du temps, à la conversion de notre vie, à la conversion de notre souffrance même en compétence pour mieux aimer et mieux choisir la vie. Amen. Un grand merci à Jean-Dominique Pasquet donc pour cette magnifique, bouleversante pièce d'orgue de Jean-Sébastien Bach, donc j'allais dire cette prédication de Jean-Sébastien Bach et Jean-Dominique Pasquet. Alors nous pourrons entendre Jean-Dominique donc vendredi dans un récital d'orgue ici, vendredi à 12h30. Mais d'abord je vous propose de chanter ensemble le psaume 91 qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Ce psaume 91 donc, que nous avons déjà chanté dimanche dernier, mais que nous essayons donc de bien nous mettre en tête en le rechantant encore ce dimanche. Donc les strophes 1, 4 et 5 du psaume 91. «
pouvez prendre place pour quelques annonces. Alors d'abord, il y a donc à midi, il y a un repas paroissial en face, même si vous n'êtes pas inscrit, vous êtes chaleureusement invité à manger donc un bœuf carotte. Lundi à 19h30, il y a le groupe de grec biblique des progressants. Mardi à 19h30, en face, donc, il y a le groupe des grecs bibliques pour les débutants, qui sont déjà plus débutants que ça. Donc pour débuter, il faudra plutôt attendre l'année prochaine. Et puis à 20h, il y a le début d'un nouveau cycle donc, de 6 rencontres d'initiation à la théologie. Pour ceux que cela intéresserait, eh bien, il faudrait m'envoyer un petit mail parce qu'il y a des documents qu'on envoie finalement avant chaque mardi. Donc c'est 6 mardis de suite, de 20h à 21h30. Alors bon, la plupart des personnes qui sont dans ces cycles sont des personnes qui sont dans la vie active, donc elles ont du mal à suivre les 6 rencontres. Si on peut en suivre quelques-unes, c'est déjà une bonne initiation. Alors mercredi, il était prévu un groupe de grec biblique avancé, mais je pense qu'il est annulé pour cause de problèmes prévisibles dans les transports mercredi prochain. Jeudi à 19h30, il y a le chœur de l'oratoire qui a sa répétition. Vendredi à 12h30 ici, donc un récital d'orgue par Jean-Dominique Pasquet. Et puis samedi, il y a l'hébreu biblique à 10h avec mon cher collègue Gilles Castelnau, c'est ça ? Oui. Et puis malheureusement, à 10h30, donc, il y a ici un culte en mémoire du pasteur Philippe Vasseau, qui était donc un pasteur bien aimé de beaucoup et qui est mort donc brutalement. C'est donc 10h30 samedi prochain. Il y a une conférence illustrée sur les vitraux du temple de Château-Thierry, ici même à 18h30. Par Christiane Guttinger, donc organisée par les amitiés huguenotes internationales. Et puis il y a notre groupe de prières silencieuses. Alors comme ici le temple sera occupé par cette conférence, eh bien nous aurons notre temps de prière, de méditation et puis de chant donc dans mon bureau en face à 18h samedi prochain. Et puis dimanche prochain, il y a un culte avec mon collègue James Woody, et puis l'éducation biblique. Et puis je dois annoncer aussi les assemblées générales de notre église, de l'oratoire donc, et de l'entraide. Elles auront lieu le 20 mars, donc c'est un peu plus tôt que les autres années, parce qu'il y a Pâques le 27, donc voilà. Et puis il y aura un accueil donc, qui sera assuré par les trésoriers de l'entraide et puis de l'église, le 13 mars de 9h30 à 10h15 du matin, en face donc au rez-de-chaussée, pour ceux qui voudraient donc examiner les comptes et pouvoir donc se prononcer en toute connaissance de cause. Alors maintenant, c'est le moment donc de l'offrande. Les diacres de notre église vont prendre ce que nous avons mis à part pour le service de Dieu.
Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, merci pour chaque personne qui a été pour nous une source de vie, de bénédiction. Aide-nous à recueillir avec affection et respect chacune de ces bénédictions. Ouvre nos yeux sur tout cet amour que nous recevons et qui nous fait vivre. Et puis aussi sur cet amour premier que tu as pour nous, amour qui donne vie à notre propre amour. Alors nous venons vers toi avec tout ce qui nous préoccupe, nous peine, avec nos espoirs, avec nos projets, avec notre pensée pour ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur espérance, dans leur souffle de vie. Nous ne savons pas ce que tu peux faire, mais nous te faisons confiance. Nous pensons devant toi, nous pensons grâce à toi, à tous ceux que tu nous confies, et peut-être que nous n'avons pas repéré, pour que nous les aidions et pour que nous nous laissions aider par eux. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle partout à travers le monde, dans les différentes églises, nous élevons vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction qui vient de la part de Dieu et que je peux simplement vous dire au singulier. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, béni sois-tu, ô Dieu, source de vie.